À voix nue. Martin Penney s'entretient avec Zizi Jeanmaire. Aujourd'hui, troisième épisode, le cinéma. Figure légendaire du spectacle à la française, René Jeanmaire a pourtant gagné son prénom Zizi aux États-Unis dans les années 50. Vedette des ballets de Roland Petit, elle y a effectué plusieurs tournées avec Carmen et la croqueuse de diamants de 1949 à 51. Ses succès lui ont ouvert la voie d'Hollywood sur un chemin semé de péripéties. En 1954, alors que Roland Petit était rentré à Paris, elle a fait la conquête de Broadway avec la comédie musicale The Girl in Pink Tights, la jeune fille au pantalon rose, de Sigmund Romberg. À New York, Zizi Jeanmaire incarnait le charme et l'esprit de Paris. Une nouvelle carrière s'offrait à elle, mais elle a préféré unir son destin artistique à celui de Roland Petit. Zizi Jeanmaire, vous savez que vous jouissez d'une sorte de privilège quand même dans l'histoire du spectacle. C'est grâce à la vigilance de Roland Petit, qui est donc à la fois votre mari, votre chorégraphe et...
Et tout le reste.
voilà, on va dire ça. Eh bien, c'est que grâce à lui, donc, l'essentiel de ce que vous avez fait a été filmé et conservé.
Oui.
Et donc ensemble, on peut dire que vous avez constitué une œuvre.
C'est vrai, il a bien fait. Il me disait toujours, il faut le faire, il faut absolument filmer les ballets. Et c'est ce que l'on a fait.
Alors, le démarrage de toutes ces images, j'ai envie de dire quand même, ce sont vos premiers films. Et là, il ne s'agit pas de captation.
On a tourné quatre ballets.
Effectivement. Alors là, d'après ce que j'ai retrouvé, donc c'était un film de 1960.
Black Tight.
Voilà, réalisé par Terence Young, qui donc est une sorte de florilège des plus beaux ballets.
Des plus beaux ballets,
de
oui.
De Roland Petit avec
bon,
vous.
Terence Young, il était merveilleux dans 007, mais alors avec le ballet, je ne trouve pas que c'était tellement extraordinaire. Bon.
Enfin, quand même, grâce à ça, on a des traces donc, de Carmen, de La Croqueuse de Diamants, de Cyrano de Bergerac et du Deuil en 24 heures.
Oui, c'est vrai. Et puis, malgré tout, bon, c'est quand même, c'est bien filmé, c'est du ballet, mais on filme mieux maintenant le ballet, croyez-moi. Mais c'est un très beau film.
Bah, écoutez, Zizi, on ne peut pas être et avoir été, donc...
Non, je sais.
Ce qu'on a filmé en 1960, c'est comme un témoignage de l'époque, même si, avec le recul, on aurait pu filmer mieux.
Non, mais c'est parce qu'il savait pas. Il savait pas filmer le ballet, c'est tout. Parce qu'à l'époque, on pouvait très bien filmer... Fred Astaire, il filmait bien ses ballets. Hein. Il n'y avait pas 36 caméras dans tous les sens qui vous prenaient de biais, qui vous prenaient de partout. C'était toujours comme si ils étaient sur la scène. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et d'ailleurs, il répétait d'une façon comme s'il allait monter sur scène, Fred Astaire.
Alors, je crois que ce serait bien de parler des films que vous avez eu l'occasion de tourner au cours de votre carrière. Beaucoup, c'est quand même essentiellement les années 50.
Hein. Oui.
C'est même uniquement, je crois, les années 50.
Oui, uniquement, parce que je n'ai pas donné suite.
Alors, donc ça commence en... Enfin,
d'abord, c'est dommage, d'ailleurs, j'aurais dû.
Ah. Vous avez des regrets aujourd'hui?
Bah oui, il faut bien avoir quelques regrets quelque part, quand même.
Donc ça commence aux États-Unis, évidemment, à Hollywood, en 1952...
En 1952, avec Hans Christian Andersen.
Très beau film qui reste encore quelque chose d'important, notamment pour le jeune public. Hein. C'est un film qui est encore très connu, qui est même sorti en DVD. Ce qui est...
Ah, c'est ça, sorti en DVD.
Ce qui est une garantie quand même de pérennité.
Ah, c'est drôle ça, ça doit être très amusant de revoir ça.
Mais donc là, en plus, bon, donc là, ça se passait à Hollywood. Vous étiez déjà aux États-Unis pour la tournée du ballet La Croqueuse de Diamants. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez été amené à tourner ce film?
Howard Hughes m'avait vu sur des magazines. Et il a tout simplement eu envie, entre parenthèses, de filmer Carmen avec une histoire autour. Anita Loos, d'ailleurs, et tous ces gens-là ont travaillé avec Roland pour trouver une histoire. Enfin, ça n'a jamais collé, mais... il a donc envoyé quelqu'un, un de ses bras droits, ses nombreux bras droits, à Chicago. Il a proposé à Roland, nous étions en tournée, un contrat pour aller à Hollywood.
Pour resituer en deux mots, Howard Hughes, qui il était.
Howard Hughes, oh, oui. Bah oui, bon, il avait. Il était richissime, moi j'en savais même rien, et ça, j'en avais rien à faire, vraiment.
Et c'était lui le propriétaire de RKO, hein, c'est ça?
Oui, mais enfin, il n'était pas propriétaire de RKO, il avait des puits de pétrole partout. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait tout, quoi. Il avait, c'était une des grosses fortunes américaines. C'est lui qui a fait le tour du monde le premier, en quelle année. Il a eu un accident, il a eu plusieurs accidents. C'est lui qui avait fait l'hydravion, qui n'arrivait pas à décoller, que finalement il a fait décoller tout seul, parce qu'il était en bagarre avec l'État qui ne voulait pas lui donner l'argent qu'il avait demandé. Enfin bref.
C'est un personnage.
Personnage extraordinaire. Donc il a engagé la compagnie, toute la compagnie. Et arrivé à Hollywood, je suis descendu de l'avion. J'ai vu la compagnie partir dans un bus, Roland dans une voiture avec un chauffeur. Moi, je suis entrée dans une autre voiture et je me suis retrouvée à Beverly Hills Hotel, sans mes bagages, sans rien. Et j'étais en fait kidnappée par Monsieur Howard Hughes. Je dis ça, mais c'est vrai, quoi. Je me suis retrouvée là-bas. Je ne parlais pas l'anglais, pas vraiment. Même pas du tout. Et je me suis dit, mais où sont-ils tous? Et puis j'ai vu Howard Hughes arriver, qui m'a dit, on va vous apporter vos bagages. J'ai dit, où est Roland? Enfin, on ne se comprenait pas, évidemment. Et finalement, bon, il est venu, il est reparti comme il était venu. Alors au bout de 2 jours, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes bagages, où sont... Bon, mes bagages, je les avais reçus, mais où sont les danseurs et où est Roland Petit? Et on m'a répondu, ah ben, Monsieur Hughes va venir de toute façon, et puis vous allez lui parler, vous allez... Et il est venu, et puis il s'est mis à parler un petit peu en français, lui. Je dois dire qu'il avait de toute évidence un penchant pour moi, ça c'est sûr. Bien sûr qu'il l'a montré, qu'il me l'a fait comprendre, mais moi, non, ça ne marchait pas vraiment, ça ne marchait pas. Donc...
Vous n'étiez pas encore mariée avec Roland à cette époque-là?
J'étais pas mariée, mais même mariée, pas mariée, je veux dire que non. Et en plus de tout ça, je n'avais aucune idée de ce qu'il était, de ce qu'il représentait. C'est ça qui était drôle. Et puis finalement, bon, ben, petit à petit, j'ai retrouvé Roland qui était, je ne sais pas où, dans un hôtel, la compagnie, et puis voilà.
Mais le problème, c'est que vous étiez quand même censé tourner des films, je suppose, parce qu'il avait
engagé
la compagnie.
Oui, Roland a commencé à travailler avec différents écrivains. Et puis, moi, j'avais dit à Hughes, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de studio, on n'a rien pour nous entraîner. La compagnie ne peut pas rester comme ça. Et j'ai découvert qu'il comprenait pas mal le français après. Et... il m'a dit qu'à cela ne tienne, et le lendemain, je dois dire, dans le studio RKO, nous attendait le lendemain, hein, un studio fait exprès, superbe, très grand, avec des miroirs, superbe, des bars et tout, tout était prêt.
Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à tourner donc ce film?
Alors bon, alors comme je n'ai pas pu, comme Roland n'arrivait pas à se mettre d'accord, parce qu'il voulait que ce soit Roland qui dirige... Roland s'est pas mis d'accord sur les sujets, parce que Hughes voulait mettre son nez dedans. Roland, c'est pas tout à fait son genre. Il faut qu'on le laisse faire ce dont il a envie. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. C'est tombé comme ça, petit à petit. Mais, entre-temps, au bout de 2 mois, j'ai fait Hans Christian Andersen, parce que Goldwyn a demandé à Hughes que Roland fasse la chorégraphie des ballets de Hans Christian Andersen. Donc, il nous a accepté. Il nous a vendu à Goldwyn.
Et donc,
on est passé d'Arkéo à Goldwyn. C'était plus Metro Goldwyn, c'était Goldwyn. Et là, bon, on a commencé les répétitions. Goldwyn était insupportable parce qu'il se mêlait de tout, il voulait tout savoir, comme tous les producteurs là-bas. C'est rare quand ils se mêlent pas de tout. Hein. Et Goldwyn, il marchait qu'à l'instinct parce qu'en fait, il savait rien. C'est ça qui est étonnant. Il ne connaissait rien, à rien du tout. Roland lui a fait entendre un morceau de Liszt et la personne qui faisait entendre le disque avait mis le disque à l'envers. Je ne sais plus comment vous dire. Enfin, ça c'est sorti à l'envers. Il a dit, ce type-là, il est génial. C'est-à-dire que c'était quand même la musique moderne, si vous voulez. Il a dit, ce type-là, il est génial. Où est-ce qu'il est pour que je l'engage? Je veux dire que, bon,
ça montre l'étendue de son ignorance. Oui.
Non, mais moi, j'ai pas beaucoup de savoir non plus. Mais je veux dire que lui, alors c'était vraiment. Hein, il demandait pourquoi je restais sur les pointes. Il demandait pourquoi je redescendais pas de mes pointes. Des choses ahurissantes.
En tout cas, dans ce film, il y a quand même un ballet splendide à la fin.
Ça c'est très beau. Oui, hein, ça,
entièrement
c'est très
réglé
beau.
Par Roland.
Oui.
Et ça reste un très très beau film.
Oui, ça reste un très beau film qui paraît-il projeté au moment des vacances de Noël ou je sais pas.
Et vous partagiez la vedette avec
Danny Kaye, oui. Et Farley Granger. Et je dois dire que Danny Kaye était quelqu'un d'adorable, qui était sur scène merveilleux et qui avait une grande présence et qui était non seulement drôle, mais qui pouvait faire des choses assez dramatiques très bien. Moi, je l'ai aimé surtout au théâtre, parce que je l'ai vu sur Broadway.
Alors, Zézie Jeanmaire, j'aimerais que vous m'expliquiez, puisque là, vous avez eu l'expérience à ce moment-là, en 52, d'un tournage de film, proprement dit, la différence entre le travail sur un plateau de cinéma
et de la scène. Il y en a une fameuse, alors là, parce que si vous n'avez pas devant vous, c'est comme dans tout. Alors, si vous n'avez pas devant vous un metteur en scène qui vous passionne, mais ce qu'il y a surtout, ce qu'il y a de terrible, c'est quand en chaque prise, vous attendez, à l'époque, vous attendiez des heures. Hein, des heures. Alors quand il s'agit de faire des ballets dans des spectacles, au cinéma, quelquefois on tournait 2 minutes dans la journée. Alors de 9h du matin à 6h le soir, hein, il fallait rester chaud. Il fallait faire la barre un petit peu de temps à autre. Il fallait, enfin bon. Et ça, c'était plutôt un supplice. Pour le ballet, je parle.
Ça, je veux bien le croire. Hein.
Pour la comédie, c'est différent quand même. Et pour la chanson, c'est différent. Mais alors, pour le ballet, c'est vraiment dur. Mais enfin, j'ai quand même eu. Ça m'a donné une autre expérience. Ça m'a apporté une autre vision des choses. Quand on monte sur scène, quand on fait du musical, on est tout seul. On part, on vous démarre, vous partez tout seul et puis vous avez vos bases et puis vous vous débrouillez. Tandis que là, il y a le metteur en scène qui est là, il faut cadrer, il faut ceci, il faut cela, il faut garder le spirit, si je peux dire. C'est très, très...
Et alors pendant cette époque-là, vous avez vécu à Hollywood?
Oui.
L'un et l'autre.
Oui, oui.
Quelque temps. Et oui. Là, vous avez connu une vie assez étonnante.
Ah ben là, c'est toute la période c'est tous les grands que l'on voit en ce moment ressortir. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Marlon Brando, j'ai connu Gary Cooper. D'abord, il était marié avec une Française. Il était très sympathique. Il était beau, il avait, enfin, il faut dire que l'époque, il y avait les beaux mecs, hein. Il y a une belle brochette là. Mais enfin, je l'ai très peu connu, je l'ai connu dans les surprises parties, ou enfin les surprises parties, ou les soirs où ils se rencontrent tous, comme ça. C'est une énorme famille, hein. C'est un peu comme si vous me parliez de l'Opéra de Paris, c'est la même chose, je veux dire, ils vivent tous en vase clos, les uns à l'époque, les uns sur les autres, s'invitant mutuellement, faisant des parties tous les samedis jusqu'à 5 heures du matin, enfin bon, et puis voilà, avec des groupes qui s'aiment plus ou moins, avec des gens qui se fréquentent plus ou moins, même, hein, enfin tous ces artistes, c'est vraiment une énorme famille, moi je trouve. Ah ben moi, celui que j'ai le plus aimé, c'est Marlon Brando, que j'ai adoré. Mais je l'ai rencontré, lui par contre, quand j'ai fait The Girl in Pink Tights, en scène à Broadway. Mmh. Il était irrésistible, ça c'est évident. C'est évident. Il était comme dans ses films, véritablement. Aussi... Il avait l'aura, quoi. Il avait le...
Vous en gardez un souvenir ému, apparemment.
C'est pas ému, c'est... Pour moi, il est un des grands, grands acteurs que j'ai pu voir. Enfin, c'est celui qui m'a ému le plus et qui m'a... J'aime cette force, j'aime cette vigueur, j'aime ce tempérament et... Et voilà, c'est tout, ça correspond à ce que j'aime.
Et parmi les actrices, il y en a que vous appréciez à l'époque ?
Ben, j'adorais Judy Garland, moi. D'abord parce qu'elle avait une voix divine. Ben, elle j'ai pleuré avec Judy Garland, parce que je l'ai vue sur la scène, elle était merveilleuse. Donc Judy, elle était formidable. Je l'ai connue peu, mais quand même. Qui j'ai bien connu, c'est Yul Brynner, par contre, qui était devenu un ami, vraiment. Mais ça, c'est quand j'ai tourné le deuxième film, Anything Goes, après.
Ce film, Anything Goes, que vous venez d'évoquer, Zizi Jeanmaire, vous l'avez tourné en 1955, quand vous êtes retourné à Hollywood avec Roland Petit, sauf qu'entre-temps, vous l'aviez épousé.
Oui.
Parlez-moi de ce film, Anything Goes, donc musique de Cole Porter.
Donc, musique de Cole Porter... Et puis, divin, alors ça,
une comédie musicale.
Porter, ouais. Une comédie musicale. Ça, Cole Porter, c'est... Alors ça, celui-là aussi, je l'adore. Alors, Anything Goes, c'était merveilleux. J'étais avec Bing Crosby. Entre autres, j'ai passé une soirée divine avec Bing Crosby et Sinatra à Las Vegas, dans la maison de Bing Crosby. Où ils se sont mis à chanter tous les deux, j'aime mieux vous dire que c'était plutôt bien.
Bah, c'était un grand moment, hein, quand même. Les deux grands crooners de du musical américain réunis, c'est
vraiment,
pas mal.
Vraiment. Et puis, Roland est reparti à Paris parce qu'il fallait qu'il prépare une saison. Moi, je suis restée à Hollywood toute seule. Et là, bon, bah, j'étais enceinte, alors terminer le film, c'était pas tellement facile. Mais quand même. Et puis j'ai fait la connaissance à cette époque-là de Yul Brynner, qui s'est occupé de moi parce que il était le seul à savoir que j'étais enceinte. Alors il était devenu un ami très très cher, très près. Il m'aidait beaucoup. Voilà.
Alors vous avez finalement quitté Hollywood.
Oui.
Vous auriez pu y rester.
Oui, j'aurais pu. Il était question que je fasse un film. Mais j'avais surtout des contrats pour retourner sur Broadway à ce moment-là. Par exemple, je devais faire Daisy Rides Again. C'était une histoire qu'avait tournée Marlène, je crois, qu'il voulait mettre en comédie musicale. Ils étaient en train de faire ça et on m'avait proposé aussi Irma la Douce, J'aurais bien aimé travailler avec Billy Wilder, moi. J'aurais adoré ça. Et j'ai eu tort parce que j'ai, justement, il m'avait demandé pour faire Irma la Douce. Et puis j'ai appris qu'il n'y avait pas les chansons dans le film. Et ça ne m'a pas tenté, ça m'a arrêté net dans mon élan.
Bah oui, c'est vrai que ça.
Même en aimant Billy Wilder, ça m'a arrêté net.
Bah, ça enlève une grosse part de l'œuvre, c'est sûr.
Enfin, pour moi, de toute façon.
Mais moi, je suis d'accord avec vous.
Moi, étant française, ayant chanté Irma la Douce, je ne pouvais pas imaginer qu'on fasse ça comme ça. Mais enfin, bref.
Donc, finalement, vous êtes rentrée en France.
Nous sommes rentrés en France.
Avec Roland. Et vous avez tourné. Donc là, on arrive en 56, 57, 58, où vous avez tourné successivement trois films français. Et ce seront les derniers.
Alors, j'ai tourné Folie Bergère. Avec Eddie Constantine.
Donc, film réalisé par Henri Decoing. Mais c'est un film important, ça, quand même.
Ah bah oui, c'est un film important, parce que ça a eu beaucoup de succès, Folie Bergère.
Vous pouvez nous raconter l'histoire, en quelques mots ?
Bah, l'histoire, c'est un Américain qui se retrouve à Paris, qui tombe amoureux de Paris, et Paris, bohème, à qui dis-tu je t'aime? Enfin, c'était, bon, une histoire bien banale, il trouvait, et puis finalement, il tombait amoureux d'une Française et tout, et puis, à la fin, il devenait star aux Folies Bergères, c'est ça.
Et la star, c'était vous, déjà?
Et la star, c'était déjà moi.
Mais il y avait pas mal de chansons dans ce film.
Oui, Paris Bohème, il y avait, je ne sais plus...
Une reprise de La Croqueuse de Diamant.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la reprise de La Croqueuse de Diamant.
Par contre, il y avait deux reprises de Miss Tinguette.
Ah oui, il y a Paris est une blonde et La Java. C'était assez kitsch, hein, Paris... Paris est une blonde, parce qu'on m'avait mis une perruque, oh là là, une perruque blonde. Et quand je l'ai vue la dernière fois, j'ai ri vraiment. J'ai ri parce que je trouve que c'est vraiment, je vous dis, c'est kitsch. Hein.
Bon, enfin, en tout cas, ça a été un premier film français marquant.
Et... ça a été très marquant, pour moi. Parce que... et j'ai cru à ce moment-là que j'allais faire vraiment du cinéma, beaucoup. Et puis j'ai eu des propositions, plus ou moins, et puis je revenais toujours au ballet. Puis de toute façon, bon, j'aimais pas tellement ce qu'on me proposait, parce que c'est toujours la même chose. Et puis après, on m'a proposé de faire Charmant Garçon. Alors là, j'avais des partenaires très bons acteurs. Oui, il y avait Daniel Gélin, qui est un très bon comédien. Il y avait Henri Vidal. J'avais de très bons acteurs autour de moi, et ça s'est très, très bien placé, comme toujours avec Decoing, parce que de toute façon, il était charmant. Et puis, il n'y avait jamais de colère. Il était toujours égal à lui-même tous les jours. C'était très bien.
Ce qui est assez rare dans le milieu du cinéma.
Ce qui est assez rare, oui. Parce qu'il arrive beaucoup de choses... où tout à coup l'acteur n'est pas de même avis que le directeur. Enfin bon, ça arrive. Mais voilà. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'Alhambra. Et j'avais demandé à Béard de me faire une chanson pour le film. Il était arrivé un jour dans ma loge à l'Alhambra, il m'a dit, j'ai trouvé une chose épatante, je suis sûre que tu vas aimer. Il a commencé qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ses bras, là. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, et nous l'avons fait dans le film. Puis après, je l'ai repris sur scène, etc.
Et donc, on arrive à l'année suivante, à votre dernier film, finalement, Guinguette.
Oui. Alors, Guinguette, j'avais pourtant un bon metteur en scène, Delannoy. Mais je pense qu'il était plus à son aise dans les choses dramatiques que dans les choses amusantes. J'ai aimé faire Guinguette, bien sûr, j'ai aimé faire Guinguette. C'était un très joli rôle.
Vous étiez avec Jean...
Mais j'avais aussi un dialogue d'Audiard. là, le dialogue, il ressemblait beaucoup. Ça aurait pu être Arletty, vous voyez, le dialogue d'Audiard. Et je sais pas pourquoi, ça me plaisait beaucoup. Et en même temps, quelquefois, je me disais, oh là, c'est trop près comme dialogue de ce que faisait Arletty un peu. Mais j'ai beaucoup aimé tourner quand même Guinguette.
Et vous étiez avec Jean-Claude Pascal ?
Avec Jean-Claude Pascal, qui, ma foi, était très, très beau. Hein. C'est très, très beau. Sympathique, charmant.
Et bon acteur aussi ?
Si on veut.
Bon, mais il y avait aussi des chansons dans ce film. De toute façon, dans tous vos films, il y a des chansons.
Ben forcément, c'est, oui. Donc, et qu'est-ce qu'il y avait là ?
Ben Guinguette, justement.
Ah oui, ça c'était pas particulièrement formidable non plus. Hein. Et puis après Guinguette, j'ai eu la possibilité de faire La fille à la valise. Je ne sais pas, après ça a été L'homme à la valise ou je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai eu la possibilité de faire plusieurs films, mais je n'ai pas suscité. Je n'ai plus été si sensible à ça. Je comprends pas pourquoi. Si, je crois que je sais. Parce qu'en fait, il y a des rencontres aussi qui vous propulsent.
Ils vous font avancer.
Je pense que c'est important. Et je n'ai jamais retrouvé ça, avec 4 films, ou 5 films, je n'ai jamais trouvé ça comme je l'avais trouvé dans le ballet ou sur scène.
Vous préfériez les planches?
Ben oui, et puis il faut dire que la danse m'a toujours poursuivie énormément, même quand je faisais du musical, et même quand j'ai fait La Dame de chez Maxime, et même, je veux dire que je suis née danseuse, voilà. J'ai toujours eu besoin d'un contact. Et puis je revenais surtout toujours éternellement à la danse. Et si je n'étais pas revenue à la danse tout le temps comme ça, j'aurais fait certainement davantage de pièces et j'aurais fait d'autres choses que je n'ai pas faites, et du cinéma entre autres.
À Voix Nue, Martin Penney s'entretenait avec Zizi Jeanmaire, attaché d'émission Claire Poinsignon. Équipe de réalisation, Yvan Turc, Stéphane Touvenin, Viviane Noël. Cette émission peut être réécoutée et podcastée sur le site de France Culture. Demain, 4e épisode, le musical.